Généralement, les gens sont joyeux pour une ou plusieurs raisons, et le plus souvent parce que les circonstances leur sourient. Les parents se réjouissent quand ils constatent que leurs enfants suivent la voie qu'ils leur ont tracée. Tout cela est très humain et terre à terre. Mais il existe aussi une euphorie céleste. Dans le Nouveau Testament, Jésus ainsi que les apôtres mentionnent une qualité de joie dont la source est avant tout spirituelle. Je continue à lire dans la seconde épître de Jean. « J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants marcher en vérité comme nous en avons reçu le commandement du Père. » Verset 4. Apparemment, Jean s'est laissé dire, ou alors il a découvert de lui-même, lors d'une tournée d'inspection, que certains croyants marchaient fort bien et il s'en est grandement réjoui. Cette bonne nouvelle constitue la raison de son action de grâce. L'apôtre Paul aussi exprimait sa reconnaissance au début de la plupart de ses épîtres. Cependant, à l'époque de Jean, tout n'allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes parce qu'il dit que certains, pas tous, vivaient en conformité avec le commandement du Père. L'expression « marcher en vérité » équivaut à marcher dans la lumière et décrit le fait de vivre en se laissant guider par l'enseignement des Écritures. La marche est une métaphore fréquente dans le Nouveau Testament pour désigner la vie chrétienne. En mentionnant le commandement du Père, un mot qui revient 4 fois en 3 versets, Jean ne fait pas allusion à une règle particulière, mais à une attitude générale de soumission et d'obéissance à Dieu. Dans sa lettre à Timothée, l'apôtre Paul appelle cette marche le combat de la foi et ajoute « Observe ce commandement en restant pur et irréprochable ». La courte épître de 2 Jean commence donc par un appel indirect mais retentissant aux croyants à modeler leur vie sur la parole de Dieu parce que seuls les chrétiens qui sont solidement enracinés dans la vérité peuvent résister aux persécutions, aux tentations et aux fausses doctrines qui les assaillent continuellement. Je continue le texte. À présent, chères dames, voici ce que je te demande, ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Verset 5. Jean n'ordonne pas mais demande, ce qui est une façon polie de formuler une requête. Il n'impose pas une nouvelle exigence, mais seulement celle que Jésus a formulée qui est « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même, je vous ai aimé. Dans sa première épître, Jean a déjà rappelé ce commandement de Jésus quand il a dit « Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. » Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Tout au long de ses écrits, Jean insiste sur la nécessité pour les croyants de s'aimer parce que la marque du véritable croyant est l'amour qu'il porte à ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Jean dit « Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris ». Le mot pour « nouveau » ne veut pas dire quelque chose de neuf qui vient de sortir comme une nouvelle bagnole, mais nouveau en essence, comme une nouvelle invention. Le commandement d'aimer n'est pas propre au Nouveau Testament. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil à cet égard. Quand on a demandé à Jésus de citer le plus grand commandement de la loi, il a mis bout à bout 2 citations de l'Ancien Testament. Il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes » est contenu dans ces 2 commandements. Les 10 commandements qui résument toute la loi se divisent en 2 parties. Les cinq premiers expliquent comment aimer Dieu et les cinq suivants comment aimer son prochain. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut écrire « Aimer son prochain, c'est accomplir toute la loi ». Toutefois, bien que le commandement dont parle Jean a été promulgué par Moïse une quinzaine de siècles auparavant, il est quand même nouveau sous certains aspects. Dans sa première épître, Jean dit « C'est un commandement nouveau que je vous écris ». Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Ce commandement est nouveau au moins de deux manières différentes. Premièrement, l'amour s'est vraiment manifesté à la perfection dans une vie humaine en la personne du Christ. Dans son évangile, Jean écrit que Jésus donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Puis il leur a dit « Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est aussi par amour pour les hommes que Jésus s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Ailleurs, l'apôtre Paul écrit « Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Deuxièmement, le commandement adressé aux croyants d'aimer est nouveau dans le sens qu'il est rendu possible par la présence du Saint-Esprit en eux. L'apôtre Paul écrit « Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. » Dans sa première épître, Jean écrit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Ce commandement d'aimer se manifeste plus particulièrement entre les croyants parce qu'ils appartiennent au royaume que Jésus a inauguré par sa venue. Parlant de lui-même, il a dit aux religieux de son temps « Notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous !» Je continue maintenant le texte de 2 Jean. Et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous continuons à marcher selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Il n'y a pas d'autre but que de vous amener à vivre dans l'amour. Verset 6. Jean définit l'amour chrétien en termes d'obéissance à Dieu. Dans sa première épître, il a déjà dit qu'aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ce n'est pas nouveau, car il en était déjà ainsi dans l'Ancien Testament. Moïse a dit à Israël, « Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, et tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » À la fin de sa vie, Josué a dit aux 12 tribus, « Veillez bien à appliquer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a transmis. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Suivez tous les chemins qu'il a prescrits pour vous. Obéissez à ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. » On oppose souvent l'amour à l'obéissance parce que obéir est vu comme un acte légaliste. Mais celui qui aime réellement prend plaisir à obéir. L'amour et l'obéissance sont inséparables, ce que Jésus a clairement déclaré à ses disciples quand il leur a dit « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Aimer Jésus, c'est lui obéir. Obéir à Jésus, c'est l'aimer. L'obéissance est le fruit et la preuve de l'amour. L'amour, dit l'apôtre Paul, est l'accomplissement de la loi. Les croyants qui marchent en vérité, c'est-à-dire en obéissant à Dieu, ont de l'amour les uns pour les autres. C'est quasi automatique et surnaturel. Dans sa première épître, Jean a déjà souligné combien l'obéissance à Dieu était essentielle. Je le cite. Dieu nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tout ça peut nous paraître gentil et même un peu barbant parce que Jean n'arrête pas de se répéter au point où on pourrait se demander si du fait de son grand âge, il n'est pas un peu gaga. Cependant, si on remet l'enseignement du vieil apôtre dans le contexte du premier siècle, il est révolutionnaire et il a raison d'insister, le vieil apôtre. À l'Empire romain, qui dans son essence était païen et brutal, Jean oppose l'inverse, l'obéissance à Dieu et l'amour. Je continue le texte. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. Verset 7. Cette mention de l'Antichrist n'est pas nouvelle. Dans son premier épître, Jean a déjà dit « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un Antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'Antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous. Mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Au premier siècle, les philosophies et les sectes religieuses pullulaient, mais elles ne posaient aucun danger, et on peut être sûr que les apôtres n'en avaient que faire. Ce n'est pas l'abondance de ces mensonges-là qui les empêchait de dormir. Ce qui tenait en souci Paul, Jean, Jude ou Pierre étaient les hérétiques parce qu'ils sortaient des rangs de l'Église. Après avoir fait une profession de foi en Jésus-Christ, ils avaient non seulement retourné leur veste et abandonné la foi, mais maintenant ils s'opposaient activement à l'enseignement apostolique concernant la personne de Jésus. Ils contestaient la possibilité de l'incarnation du Christ. Ils refusaient de croire que Dieu s'était fait homme, qu'il était apparu en Jésus et qu'il reviendrait une seconde fois en tant que Messie pour établir son royaume de 1000 ans. Ces faussaires spirituels rejetaient en bloc ces vérités. Jean exprime son souci concernant ces imposteurs qui tentaient de tromper les âmes mal affermies dans la foi. Le mot pour tromper qu'utilise Jean veut dire littéralement « errer » et il a donné « planète » en français. Dans le monde grec, il signifiait « égarer » ou « séduire ». Dans sa première épître, Jean a utilisé la forme verbale de tromper à deux reprises. Il a dit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, c'est-à-dire dans la tromperie, la séduction, et la vérité n'habite pas en nous. » Puis concernant les hérétiques, il a aussi dit « C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. » L'apôtre Paul emploie aussi ce mot à l'adresse des enseignants de mensonges quand il écrit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Paul et Jean menaient un même combat. L'amour dont Jean parle longuement n'implique pas une acceptation naïve et dépourvue de discernement de toute personne qui dit parler au nom de Jésus-Christ. Les croyants ne doivent pas, au nom de l'amour, accueillir favorablement les hérétiques. Ces loups en vêtements de brebis sont au service de Satan, ce qui explique pourquoi le Nouveau Testament est rempli d'avertissements à leur sujet. Dans le sermon qu'il a prononcé sur la montagne des Oliviers, Jésus a prédit que dans les derniers temps, de faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges, au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Nous n'en sommes pas encore à ce point-là, mais ça viendra. Dans sa première épître, Jean a mis en garde ses lecteurs, disant « Attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Partout où la bonne nouvelle est annoncée, les émissaires du diable suivent derrière dans le but de détruire l'œuvre de Dieu en semant des mensonges, mais ceux-ci ne sont pas grossiers. Sinon, personne n'y prendrait garde. Non, ils sont bien ficelés, peaufinés et enrobés dans un peu de vérité pour bien faire passer la pilule. Il existe bien des moyens de saper le message de la bonne nouvelle, comme nier la divinité de Jésus ou faire du salut un amalgame d'accomplissements humains et de grâces de Dieu. Mais les hérétiques qui inquiétaient Jean niaient la double nature du Christ. En cela, ils étaient les précurseurs de l'hérésie du second siècle qui sera connue sous le nom de gnosticisme et qui fut bien plus dangereuse pour les croyants que toutes les persécutions menées par l'Empire romain. Nier que Dieu est devenu pleinement homme, c'est propager une doctrine démoniaque. Quiconque enseigne un tel mensonge agite avec l'esprit de l'Antichrist. Ceux qui ne croient pas que Jésus était véritablement un homme, tout en étant pleinement divin, ne peuvent pas être sauvés car un tel Christ est une pure invention philosophico-religieuse et le sacrifice de ce Christ-là n'aurait servi à rien parce que non agréé par Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, il existe des divergences d'opinion dans plusieurs domaines. Ce n'est pas nouveau car déjà au moment de la Réforme, les protestants n'étaient pas du tout d'accord sur le sujet épineux de la prédestination. Jacobus Arminius, théologien protestant néerlandais, étudia à Genève et eut comme professeur Théodore de Bèze, successeur de Jean Calvin. Or, ce dernier s'était rendu célèbre pour diverses raisons et entre autres pour défendre la thèse comme quoi Dieu avait choisi les élus avant la fondation du monde. Arminius s'opposa à cette doctrine, disant que la détermination de la destinée de l'homme n'est pas absolue et que l'acceptation ou le refus de la grâce par l'homme joue aussi son rôle dans le salut. Eh bien, ces deux grands du protestantisme auraient certainement croisé le fer s'ils avaient été de la même génération. Et pourtant, aucun des deux n'était un hérétique, car il croyait dur comme fer que toutes les Écritures étaient inspirées du Saint-Esprit, que Jésus était Dieu fait homme, né d'une vierge, qu'il était mort pour expier les péchés, puis ressuscité, et que la vie éternelle ne s'obtenait que par la foi en lui. Ils étaient d'accord sur les points essentiels qui concernent la personne de Jésus-Christ, mais divergeaient sur d'autres moins importants. Aujourd'hui, les croyants ont une compréhension différente, par exemple, sur les événements qui marqueront la fin des temps ou sur les dons et le ministère du Saint-Esprit. Mais ils sont quand même frères et devraient donc avoir de l'amour les uns pour les autres. J'ai mes opinions, mais quand je rencontre un frère qui voit les choses autrement sur un point secondaire, je me dis « Oui, bon, il y a sans doute quelque chose qui nous échappe à lui, à moi ou à tous les deux ». Ce n'est pas parce que nous avons des perspectives différentes que je chercherai à lui nuire. Au contraire, je l'aimerai comme un frère.